Et nous continuons nos méditations dans l'Évangile selon Marc. Et nous arrivons au chapitre 3. Ah, c'est surtout les versets 13 à 19, mais je vais lire à partir du verset 7 où nous avions laissé le texte tout à l'heure. Marc 3, 7 à 19. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, dans les quatre coins du pays, de Transjordanie, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne plus être autant pressé, asphyxié par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui littéralement pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, s'écriaient à haute voix, donc très bruyamment, « Tu es le Fils de Dieu !» Puis il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas se faire connaître, de ne pas le faire connaître. Alors il monta sur la montagne, donc une colline à côté du lac de Galilée. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Il établit les 12, dont voici la liste. Donc Simon, qu'il surnomma Pierre, Roc, hein, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, donc son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie les fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée ou Jude, Simon le Cananite, ou le passionné, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ô Dieu, à qui rions-nous ? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui nous parle aujourd'hui. Amen. Alors, nous voyons dans ce texte la constitution de l'équipe apostolique. En deux étapes, donc, il y a l'appel, et puis nous allons voir le caractère, les tempéraments des apôtres. Mais c'est de ressortir vraiment ce que ce texte veut nous dire à nous, hein, qui ne sommes pas apôtres aujourd'hui. Alors tout commence par l'appel. Et pour cela, Jésus monta sur la montagne. Alors il y a des beaux cantiques qu'on chantait quand on était plus jeune, « Je veux monter sur la montagne ». Ça me dit quelque chose peut-être. C'est là que l'on rencontre Dieu. Hein. Alors bien sûr, ce n'est pas sur une montagne que l'on rencontre Dieu plutôt que dans une vallée. Hein. Mais on peut comprendre hein, ce qui se passe ici. Jésus se retire loin de la foule, une foule qui l'asphyxie, qui le presse, hein, qui est bruyante, qui se met sur son passage. Hein. Il n'y a plus possible hein, de vivre et plus possible d'avoir des moments hein, de distance, de hauteur nécessaire hein, à son ministère. Et donc, il monte sur la montagne, un lieu à l'écart, pour prendre de la hauteur, littéralement, hein, et pour retrouver une solitude, hein, un calme nécessaire et propice à la prière. Hein. Surtout dans ce qui reste à faire, hein, une étape importante. Hein. Il va prier toute une nuit parce qu'il y a quelque chose d'important qui doit se faire, c'est la désignation des 12 apôtres. Et la désignation des 12 apôtres est un événement lourd, hein, lourd de conséquences hein, dans l'Évangile. Et la mission, hein, ils auront une mission qui va prolonger la mission de Jésus. Et donc il faut bien préparer ça. Hein. Il faut bien préparer ce choix hein, par l'intercession. Et donc Jésus prend une nuit hein, de prière dans un lieu solitaire et calme, à l'abri de la foule qui l'a pressé tellement. Alors, les disciples sont avec lui. Hein. les disciples sont appelés sur la montagne, hein, sur cette montagne même où il a prié. Ces disciples sont attirés par le Fils de Dieu en prière. Pourquoi ils sont là? Bien sûr, ils suivent Jésus, mais ils viennent pour Jésus, hein, eux. Hein. Ils sont attirés par sa personne, hein, par sa relation avec Dieu, hein, par sa prière. Et ils sont là. Et Jésus, il est dit en Luc 6, 12, « En ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et le matin parut, il appela alors ses disciples, en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. » Et donc Marc dit la même chose, mais en termes plus brefs. Et donc, il appela ses disciples. L'accent est mis sur l'appel. C'est lui qui appelle. Il appela ceux qu'il voulut. L'initiative vient de lui. Il ne consulte ni ceux qu'il choisit, hein, ni personne d'autre, hein, que Dieu, hein, son Père. Encore faut-il que ses apôtres soient, répondent librement, hein, volontairement. Bien sûr, Dieu n'impose jamais rien. C'est lui qui choisit, hein, mais il attend notre réponse libre et volontaire. Et c'est ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. D'un côté, c'est Jésus qui appelle. Il appelle qui il voulait. Et puis, ils vinrent à lui. Dans la Bible, les deux vont ensemble. Et chaque fois qu'il est parlé de l'appel de Dieu, souverain de Dieu, il est parlé aussi de la réponse libre de l'homme. Et les deux ne s'opposent pas, ils ne s'opposent que dans nos esprits étriqués. Alors Jésus appelle. Que signifie entendre l'appel de Dieu? Même si c'est un appel particulier, que signifie entendre l'appel de Dieu? Tout d'abord, je crois que Dieu nous appelle à croire en Jésus. C'est le premier grand appel que l'on reçoit dans la vie chrétienne. Et les apôtres l'ont reçu, cet appel. Et un désir grandissant de faire la paix avec Dieu, de se repentir, de croire en lui, est le signe que Dieu nous adresse cet appel à croire en Jésus. Il suffit de répondre alors, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me repens, je crois en ta parole, en ce que tu as fait pour moi. Ensuite, Dieu nous appelle à suivre Jésus. Le mot « disciple » signifie celui qui apprend, celui qui suit un maître et qui tire profit de son enseignement, de sa sagesse, celui qui imite aussi son exemple. Et le terme, et c'est bon de rappeler aussi que le terme utilisé, « kaléo », il appelle à donner « ecclésia ». Kaléo, ecclésia, ça n'apparaît peut-être pas immédiatement dans votre oreille. Ecclésia, c'est ceux qui, c'est être appelé hors d'eux. Mais c'est le même mot, kaléo, appelé. Les douze sont là le début de l'Église, quelque part. Ils sont appelés par Jésus à croire en lui, à d'abord à le suivre. Et l'Église, c'est le rassemblement aujourd'hui des humains que Dieu appelle, qui se savent appelés par lui, appelés à croire, à suivre Jésus. Et donc là, ça c'est déjà, il y a cet appel. Et puis du sein de cette foule de disciples, de ses disciples, Jésus choisit un groupe réduit de 12 hommes qu'il va appeler apôtres. Donc c'est le troisième appel. Ils ont déjà été appelés à croire, à devenir disciples, et maintenant ils sont appelés à être apôtres. À servir d'une façon particulière. Apôtre veut dire messager, envoyé, ambassadeur, émissaire. C'est les ministres qui ont tout plein pouvoir, c'est les ambassadeurs. Ils représentent le Christ, ils vont poursuivre sa mission. Et donc, ils sont 12. Celui qui voyait Jésus en compagnie de 12 disciples, voyait de façon visible et sans parole la prétention de Jésus être le Messie. Le Messie d'Israël, parce que ces 12 disciples, ça faisait penser aux 12 tribus d'Israël. On chantera quelque chose dans ce genre tout à l'heure après la prédication. 12 tribus d'Israël. Donc, en choisissant 12, Jésus veut dire que voilà les chefs de la nouvelle alliance. Je vais faire une nouvelle alliance avec mon peuple, avec un peuple plus large. 12, c'est 4 fois 3. Oui, merci, vous le saviez. Mais il y a l'aspect d'universalité. 3, c'est la Trinité, mais peu importe. 4, c'est les 4. L'Ouest, le Nord, le Sud, l'Est, il y a cet aspect universel. Une nouvelle alliance. Ils sont les chefs d'une nouvelle alliance. Ils sont les colonnes, le fondement de l'Église du Seigneur, hein, qui va rassembler tous ceux qui croient, qu'ils soient d'origine juive ou d'origine païenne. Hein. Et ils vont être chargés de poser le fondement de l'Église, d'être les premières pierres et de poser le fondement de la doctrine de la foi posée par les apôtres une fois pour toutes. Jésus n'a eu que 12 apôtres. Hein. Pour être apôtre de Jésus-Christ, il fallait remplir certaines conditions. Il fallait d'abord avoir vu Jésus ressuscité. Il fallait l'avoir suivi depuis le début jusqu'à la fin de son ministère, jusqu'à sa résurrection, son ascension. Et il fallait avoir été choisi par lui. Les apôtres ont posé, comme on l'a dit, le fondement de l'Église. Ils nous ont laissé le Nouveau Testament, écrit sous leur autorité. Aujourd'hui, l'Église est apostolique, c'est-à-dire elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, sur la Bible, sur le Nouveau Testament. Tous ont disparu en tant que martyrs, ces apôtres. Ils n'ont pas eu de successeur. Le successeur des apôtres, c'est le Nouveau Testament. Et il est toujours avec nous. Aucun croyant ne peut plus revendiquer le titre d'apôtre aujourd'hui, au sens plein du terme, car aucun d'entre nous n'a vu le Christ ressuscité. Une autorité donc unique, fondamentale, intransmissible a été conférée aux 12 apôtres. Et d'ailleurs, dans le texte, on le voit bien parce qu'ils sont mentionnés par leur nom, pour bien dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est eux qui sont les 12 apôtres de Jésus-Christ pour tous les temps. Et leur nom et sont bien circonscrit bien ce qu'ils sont. Mais même si nous ne sommes pas apôtres aujourd'hui, nous sommes tous appelés à servir. Tous nous sommes d'abord appelés à devenir chrétiens, ensuite tous nous sommes appelés à devenir disciples, ensuite tous nous sommes appelés à le servir, selon son appel. Alors pour cela, certains vont servir Dieu de façon spéciale, particulière. Ils vont changer d'endroit, ils vont faire des formations complémentaires, comme les apôtres l'ont fait. Ils devront suivre, les apôtres ont suivi, n'oublions pas, une formation intensive de 3 ans avec Jésus. C'est la plus belle école de théologie du monde. Mais de toute façon, Dieu nous appelle à le servir, il a une place pour nous. Et parfois, ce que nous devons faire est tellement près de nous que nous ne le voyons pas. D'autres chrétiens peuvent nous aider à mieux voir les choses. Jésus nous appelle, il nous veut à sa suite, il veut que nous soyons serviteurs dans son Église. Nous pouvons répondre librement, après réflexion, en étant conscients du sérieux de cet engagement. Oui Seigneur, je t'aime, je veux te suivre, je veux te servir. Voilà la seconde réponse qu'un chrétien fait dans sa vie et qu'il refait tout au long de sa vie chrétienne. D'où apparaît la nécessité de devenir chrétien, disciple ensuite, avant de servir Dieu. Il faut devenir utile à Dieu. Pour devenir utile à Dieu, il faut d'abord être utilisable. Et parfois, on loupe une étape et ça, on va devant de graves catastrophes. Alors, un autre aspect du texte, c'est qu'il les prend pour être avec lui. Puis ensuite, il les envoie. Mais d'abord, il les prend, il les choisit pour les avoir avec lui. Alors, il faut prêter une attention particulière à ce verset 14, qui nous dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Si vous avez un stylo rouge ou violet, peu importe, vous soulignez ça dans vos Bibles. Il est choisi pour les avoir avec lui. Ce verset nous explique pourquoi Jésus a choisi ces hommes, pour les avoir avec lui. Et c'est bon de le souligner. On a besoin de se rappeler ça souvent. C'est ce que Jésus attend de ses disciples aujourd'hui. Il nous veut d'abord avec lui. Nous devons prendre le temps de vivre en sa présence, de demeurer en lui, comme dit Jean 15:15. Et ensuite, une fois qu'ils sont témoins, ils vont être témoins de son ministère, ils vont se pénétrer de tout son enseignement, ils vont partager sa vie, ils vont jouir de sa présence, de sa communion. Et ensuite, ils pourront annoncer la bonne nouvelle et, comme dit le texte, s'opposer aux forces sataniques en étant armés de son autorité. Et Christ a conféré à ses 12 apôtres la force de vivre leur ministère et cette autorité spéciale pour accompagner leur ministère de fondation. Alors, d'abord la communion, ensuite la mission. La communion est la condition de la mission. Voilà. Parfois, on met la charrue avant les bœufs. On pense, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. D'abord la communion. D'abord s'asseoir au pied du maître. Ensuite agir. Le temps passé avec le Seigneur n'est pas perdu. On a toujours dans notre tête cette petite idée que le temps c'est de l'argent, le temps passé à ne rien faire ou à ne pas agir, c'est du temps perdu. Non, le temps passé avec le Seigneur, au pied du Seigneur, n'est pas perdu. Il rapporte l'intérêt le plus élevé au monde. On repart, quand on prend du temps avec le Seigneur, on repart pour accomplir les œuvres de Dieu, revêtus de la force, de l'énergie qu'il nous manquait. Et que seul le Christ peut nous donner. Il est inutile de s'engager dans les batailles du Seigneur avant d'avoir pris le temps d'être revêtu de ses armes à lui. C'est là quelque chose d'important. Jésus ne demande jamais rien à ses disciples sans leur donner le moyen de l'accomplir également. La tâche que nous sommes appelés à accomplir dépasse toujours nos propres ressources, quelle que soit la tâche. Et celui qui sert Dieu a besoin constamment de se rappeler deux principes fondamentaux de toute activité chrétienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, on l'a dit, Jean 15, 5. Et deuxièmement, je puis tout par celui qui me fortifie. On a tellement abusé de ce texte, sans moi, vous ne pouvez rien faire, qu'on en conclut qu'on ne peut rien faire. C'est pas ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il faut ajouter, je puis tout par celui qui me fortifie. Là, c'est un engagement à la dépendance envers Dieu et aussi à la confiance dans l'action. Alors, il y a le problème Judas. Judas, on va dire, c'est une erreur de casting. Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Judas est défini comme celui qui a livré Jésus. Et ce choix de Judas, on peut penser que c'est une erreur de casting de la part de Jésus. Car il a dit plus tard, mais ce n'est pas le cas. Car il a dit plus tard, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Jean 13, 38. Donc la présence de Judas parmi les disciples, bien sûr on peut questionner le texte là-dessus, mais on n'en saura pas beaucoup plus. Ce qu'il faut, c'est retirer quelque chose pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que la présence de Judas parmi les disciples nous enseigne, nous ? Eh bien la présence de Judas parmi les disciples doit servir d'avertissement pour nous. Il y a des personnes comme ça dans l'Ancien Testament qui servent d'avertissement. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout Judas. Le titre religieux porté par un homme n'est pas une garantie de sa spiritualité. Judas avait le titre le plus prestigieux, apôtre de Jésus-Christ. Il n'y a pas de titre plus prestigieux. L'appartenance aux douze n'est pas une garantie de fidélité. Parfois, la trahison vient du premier cercle. Et on a vécu des choses terribles dans la vie des églises, tout au long de l'histoire de l'église. La trahison peut venir du premier cercle, de ceux auxquels on pense le moins, ceux dont on est le plus proche. Je ne dois jamais oublier qu'avant d'être celui qui a livré Jésus, Judas est celui qui a été appelé et qui a répondu à son appel, à l'appel de Jésus. Et donc ce petit cantique, ce gospel qu'on chante, « Tel Judas je ne veux être, garde-moi Seigneur de l'être », c'est très profond. Parce que Dieu nous donne dans la Bible des exemples, je veux être comme ça, mais il nous donne des contre-exemples qui font autant de bien que les exemples parfois, parce que ces contre-exemples nous brûlent tellement que vraiment, ils nous donnent l'envie de nous en écarter le plus possible. Même les dons spirituels qui ne sont pas nécessairement les dons spirituels ne sont pas nécessairement l'indication d'une relation vitale avec le Seigneur. On peut avoir cette relation, la perdre, garder l'extérieur et puis perdre ce qui en donne la force. Judas avait les mêmes pouvoirs que les autres, mais son cœur s'est écarté de Dieu petit à petit. Le fait d'avoir été choisi et appelé à un ministère, à l'apostolat, ne garantit pas contre toute chute, ne garantit pas de toute chute que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors, c'est important de souligner ça et dans un second point, de parler un peu des caractères, pour changer un peu, des tempéraments des douze. Dans Matthieu, ils sont cités deux par deux. Je classe ça dans cette catégorie parce qu'ils se complètent l'un l'autre. Dans Matthieu, ils sont toujours cités. Il y a André qui est cité avec Pierre. Il y a Jean avec Jacques. Pas seulement parce qu'ils sont frères, à mon avis. Ils ont été envoyés en mission deux par deux. Philippe avec Nathanaël, Thomas, etc. Chacun avec quelqu'un. Moi, je pense que c'était des binômes qui se complétaient l'un l'autre. Chaque membre d'un binôme complétait l'autre. Ils sont cités deux par deux parce que nous avons besoin d'autres pour nous encourager dans la prière, dans l'exemple. Mais aussi, nos caractères se complètent et nous n'avons pas toutes les qualités. Et le fait d'avoir envoyé deux par deux montrait certainement que l'importance d'avoir quelqu'un qui vous complète quand vous êtes envoyé. Le serviteur qui part seul, qui refuse de respecter ce principe, qui ne voit pas qu'il a besoin d'être complété, même s'il a tous les dons, s'expose au découragement et à d'autres dangers plus graves pour l'œuvre de Dieu. Alors, je vais reprendre, mais brièvement, ce qu'on dit des caractères, des tempéraments. On dit qu'il y a quatre tempéraments, c'est la vieille façon de dire les choses. On peut avoir un tempérament sanguin, coléreux, flegmatique, mélancolique. Or, c'est une méthode, il y en a d'autres, et la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Mais quand même, ça nous aide à réfléchir. Disons qu'il y avait quatre tempéraments parmi les apôtres. Alors, on peut en retrouver au moins deux. Les deux premiers sont évidents. Sanguin. Le tempérament sanguin, c'est ceux qui ont un tempérament enthousiaste, qui parlent facilement, qui s'emballent encore plus facilement, quand ils devraient se taire et réfléchir avant d'agir. Le tempérament sanguin, ça donne quelqu'un de vantard sur sa propre personne, d'exalté, quelqu'un qui vit autant de haut que de bas. Alors on pense à Simon-Pierre. Simon-Pierre, il est le premier en tout, Simon-Pierre. Il est le premier pour confesser Jésus. Et d'ailleurs, il sera le porte-parole des disciples, il va ouvrir la prédication de l'Évangile, même dans le livre des Actes. Mais il est aussi le premier pour renier Jésus. Le premier pour tenter Jésus. « Arrière de moi, Satan !» devra dire Jésus. Et Dieu va faire une œuvre de grâce profonde, une œuvre de guérison dans le cœur de Pierre. Il va devenir un roc, il va vraiment porter son surnom, roc. Un rocco, on pourrait dire aujourd'hui. C'est Siméon Rocco, c'est ça son vrai nom. Il va faire de Rocco, de Pierre, un monument de la grâce divine. Et si Simon-Pierre est un roc, ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a vécu l'œuvre profonde de la grâce de Dieu dans sa vie. Ma solidité, si Dieu fait de moi un roc, quel que soit mon tempérament, ma solidité ne repose pas sur ma perfection, mais sur mon attachement à la grâce de Dieu. Et après avoir commencé par la grâce, je dois continuer à m'attacher à cette grâce. Un autre tempérament, plus bref, c'est le tempérament coléreux. Colérique. Alors, celui qui a ce tempérament est plein d'énergie, il est doué d'une volonté de faire, il a une forte personnalité, c'est un homme d'action. Mais si ce tempérament est mal orienté, eh bien, ça peut faire de cet homme un fanatique, un violent, un despote, un bourreau sanguinaire. Et on peut penser à Jacques et Jean, qui sont appelés Boanerges. Pour donner un surnom comme ça, c'est parce que ça correspondait à quelque chose. Fils du tonnerre, ils ont demandé à Jésus de faire tomber le tonnerre sur le visage du village des Samaritains qui ne refusaient pas, qui refusaient d'accueillir Jésus. Ils ont demandé à Jésus une place à sa droite, à sa gauche, quand il viendra dans son règne. Ils avaient un caractère vif, ardent, passionné. Et ce caractère va être sanctifié par Jésus. Ce caractère, une fois sanctifié par la grâce, par l'amour pour le Sauveur, va faire de ces deux apôtres les plus ardents. Ils vont garder leur ardeur, mais les scories de cette ardeur vont être abandonnées. Ça va faire de ces apôtres les plus ardents témoins du feu que Jésus était venu allumer sur la terre, le feu de l'Évangile. Phlegmatique, troisième tempérament. C'est celui qui aime la tranquillité. Il est stable, par contre. Mais il est tourné un peu vers le passé. Il s'adapte difficilement au changement, au progrès. Il a des difficultés peut-être à progresser dans sa vie avec Dieu, à engranger de nouveaux horizons, de nouvelles idées. Il est lent à croire. Alors on peut penser à Philippe, peut-être, à Thaddée, à André, le frère de Pierre, l'éternel second, le poupou de l'équipe, on en a parlé. En tout cas, ces gens phlegmatiques, il y a une bonne nouvelle pour eux. Une parole de Dieu, une promesse peut les sortir de leur léthargie. Heureusement. Heureusement. Et puis, il y a le tempérament mélancolique. Alors, on pense à Thomas, là, plutôt. C'est l'homme sérieux, méticuleux, qui aime approfondir les choses, mais qui est pessimiste, tendance dépressive. Il a des doutes, des scrupules. Bon, on ne va pas aller au-delà de ça. Mais Thomas, il voyait toujours le mauvais côté des choses dans l'Évangile. Jésus dit, on va aller là. Il dit, allons mourir avec lui. Il n'avait pas parlé de la mort à ce moment-là. Voilà. Et puis, il est absent le matin de la résurrection. Il n'y croit plus. Si je ne vois pas les marques de ses mains et de ses pieds, voilà. Voilà, peu importe. Le fait est qu'il y a différents tempéraments. Nous sommes différents. Et ces tempéraments peuvent être purifiés, les scories peuvent être mises de côté. Et les bons côtés des tempéraments sanctifiés pour aller dans le bon sens, continuer dans le bon sens. Lorsque nous devenons chrétiens, notre tempérament ne change pas. Bien sûr, en 2 Corinthiens 5, il y a ce verset qu'on comprend mal. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr, une nouvelle vie spirituelle a été implantée. Une vie nouvelle qui doit grandir dans la sanctification. Mais nous demeurons nous-mêmes, notre personnalité demeure inchangée, notre tempérament est neutre quelque part. Si je suis timide, si j'envie celui qui se met toujours en avant, qui n'a pas de peur, qui a peur de rien pour annoncer l'Évangile, mais je ne dois pas voir les choses comme ça. Je suis timide. Ma timidité a de mauvais côtés, le Seigneur peut changer les mauvais côtés, mais ma timidité a de bons côtés, parce que je ne serai pas comme Pierre à me lancer dans tous les coups tendus, tête baissée. Et si je suis passionné, comme on l'a dit, bien sûr ça a de bons côtés, mais ça doit être sanctifié par Dieu, mais les mauvais côtés, il y en a autant. Et je dois là aussi laisser Dieu changer les porter les choses dans le bon sens. Alors, donc, c'est bon de rappeler que le colérique doit veiller à ses emportements. Le flegmatique doit veiller sur sa passivité. Il y a toujours un côté négatif et positif. Le négatif, Dieu veut le sanctifier, le positif, Dieu veut l'améliorer aussi. Il faut veiller aussi sur nos points forts, car ce sont souvent eux qui nous font tomber. Donc, l'idée, c'est de ne pas se laisser diriger par notre tempérament, mais laisser le Saint-Esprit gouverner notre tempérament comme il doit gouverner tous les aspects de notre vie. Donc, voilà le miracle de la nouvelle naissance et de la sanctification qui s'ensuit. Le tempérament demeure, mais le Saint-Esprit le contrôle désormais. Alors, concluons. En conclusion, on voit ses disciples formés d'une troupe hétéroclite, on en a parlé tout à l'heure. Une troupe formée de 4 pêcheurs, des pêcheurs de poissons, dont 2 ont un caractère difficile, d'un péager, d'un zélote, que tout oppose, d'un traître. Et l'activité des autres n'est pas mentionnée. Mais il n'y a aucun rabbin, aucun scribe, aucun pharisien parmi les 12, et leur porte-parole n'est qu'un simple pêcheur, qui s'emporte. À une exception près, ils sont galiléens et non judéens. Les judéens, c'était vraiment la crème. Non, c'est des galiléens. Et Jésus ne les choisit pas non plus à cause de leur foi, car cette foi se révélera aussi défaillante à bien des égards. Les disciples n'ont rien d'exceptionnel. Aucun ne sort du lot du fait de son origine sociale, ni de ses aptitudes, du fait de ses aptitudes exceptionnelles. Et pourtant, c'est ce groupe que Jésus choisit comme ses témoins. Alors notons aussi que si l'engagement des disciples ne dépend pas non plus de leur volonté, c'est Jésus qui le met, c'est lui qui appelle chacun personnellement, individuellement. Jésus ne s'est pas laissé arrêter par leurs failles, on a dit. Il a vu 12 hommes qu'il voulait connaître mieux, qu'il voulait instruire patiemment, avec qui il voulait prendre du temps. Et de leur côté, ces gens étaient disponibles, ils désiraient aimer Jésus, lui obéir, le suivre. Ils étaient prêts à accueillir la grâce de Dieu dans leur quotidien. C'était des croyants ordinaires, mais fidèles, humbles, quelque part. Et après son ascension, ces gens vont être remplis du Saint-Esprit, avec les autres, et revêtus de puissance pour accomplir les responsabilités particulières qu'ils avaient eues, qu'ils ont eues dans le développement de l'Église. Alors, ne refusons pas de travailler pour le Seigneur sous prétexte que nous ne possédons pas les qualifications nécessaires. Ça, c'est un premier point. Et rappelons-nous d'un second point, le bon disciple est celui qui suit Jésus de tout son cœur, fidèlement et avec humilité, mais qui suit Jésus de tout son cœur. Je te donne tout, nous l'avons chanté tout à l'heure.